Dès ma petite enfance, mon père, bien des fois, m'avait parlé du pavillon d'or.
Bonjour à tous, vous écoutez Architérature, un podcast proposé par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. Je suis Céline Morlot, votre lectrice du jour. Aujourd'hui, le pavillon d'or de Yukio Mishima, paru en 1956, ou la destruction de la beauté.
À la périphérie de Kyoto, le Kinkakuji, ou pavillon d'or, en français, est une pagode, lieu sacré protégeant les reliques du Bouddha. Il fait partie du domaine Rokonzi, qui appartient à la secte Zen. Inscrit à l'UNESCO en 1994, le pavillon à l'allure immuable, paré d'or et d'éternité par le reflet qu'offre l'étang l'entourant, a pourtant vécu bien des tumultes. Le 2 juillet 1950, le Kinkakuji est entièrement incendié par l'un des moines du domaine. Le crime fait la une de tous les journaux japonais, mais impossible d'en déterminer le mobile. Rancœur du moine envers le prieur, envers la vie stricte et codée que commande la doctrine zen, geste d'ampleur philosophique, destruction totale de la beauté terrestre, haine de la beauté, le coupable ne cesse de changer de discours et est finalement jugé mentalement déficient. Le temple est par la suite reconstruit à l'identique. Yukio Mishima, devant ce fait divers des plus étranges et insolubles, nous livre, dans son pavillon d'or, son interprétation des faits, l'impact que peut avoir la beauté, ici, en architecture, sur une psyché tourmentée.
Pareil à la lune dans le ciel nocturne, le pavillon d'or avait été édifié comme un symbole du temps des ténèbres. Aussi était-il indispensable que celui de mon rêve se détachât sur un fond d'épaisse nuit, une nuit qui le pressa de toutes parts. Et dans cette nuit noire, la texture de splendide et svelte colonne reposait, détendue, sereine, faiblement éclairée du dedans. Quels que fussent les discours qu'on lui put adresser, il fallait que le temple merveilleux continuât d'offrir en silence à tous les regards sa délicate architecture et de subir l'assaut des ténèbres environnantes. Et je pensais aussi au phénix d'or qui, tout au haut de la toiture, était resté, des années et des années, exposé aux intempéries. Le mystérieux oiseau, à ne jamais annoncer le lever du jour, à ne jamais battre des ailes, avait dû oublier ce qu'il était, mais il serait faux de croire qu'il n'eût pas l'air de voler. Si les autres oiseaux volent dans l'espace, le phénix d'or, lui, de ses splendides ailes soulevées, vole à travers le temps. C'est le temps qui le fouette et où il laisse un sillage. Pour prendre son essor, il lui a suffi de demeurer immobile, un éclair de colère dans la prunelle, l'aile haute, la queue déployée en panache, de se camper fièrement sur ses majestueuses pattes d'or. Quand ma pensée suivait ce cours, le pavillon d'or m'apparaissait comme un magnifique navire franchissant l'océan des âges. Le livre disait « Construction aux cloisons rares et pleines de vents coulis ». Et cela m'évoquait un bateau, cependant qu'au pied de l'édifice compliqué de cette nef à double étage, la pièce d'eau figurait la mer. Le pavillon d'or nous arrivait du fond d'une nuit immense, une traversée dont on ne pouvait prévoir la fin. Pendant le jour, l'étrange vaisseau jetait l'ancre avec un air d'innocence, se soumettant au regard curieux de la multitude. Mais la nuit venue, puisant dans les ténèbres d'alentour une force neuve, il enflait son toit comme une voile et gagnait le large. Je peux, sans exagération, affirmer que le premier problème auquel dans ma vie je me sois heurté est celui de la beauté. Mon père n'était qu'un simple prêtre de campagne, au vocabulaire pauvre. Il m'avait seulement dit que nulle chose au monde n'écalait en beauté le pavillon d'or. La pensée que la beauté pût déjà exister quelque part à mon insu me causait invinciblement un sentiment de malaise et d'irritation. Car si effectivement elle existait en ce monde, c'était moi qui, par son existence même, m'en trouvais exclue. Jamais, cependant, le pavillon d'or ne resta pour moi à l'état de simple concept. L'écran des montagnes m'empêchait de l'apercevoir, mais pour peu que j'eusse vraiment la fantaisie de l'aller voir, cela était parfaitement réalisable. Il existait, il était là. La beauté était donc quelque chose qui pouvait être touché du doigt, clairement reflété par l'œil. Qu'au sein même de cet univers aux multiples métamorphoses, l'inaltérable pavillon d'or dut continuer d'exister tout tranquillement, de cela j'étais sûre, absolument sûre. Il y avait des fois où je me le représentais comme un menu travail d'artisan, finement ouvragée, que je pouvais tenir entre mes mains. D'autres fois, c'était une gigantesque, une terrifiante cathédrale qui se perdait dans les hauteurs du ciel. La pensée que le beau, ni grand ni petit, était affaire de juste rapport ne pouvait effleurer l'adolescent que j'étais. Aussi, quand je voyais, trempée de rosée matinale, briller vaguement les petites fleurs de l'été, je les trouvais belles comme le pavillon d'or. De même voyais-je une nuée chargée d'orage bloquer insolemment le revers des collines, toute noire avec seulement un liseré d'or éblouissant. Pareille magnificence me faisait évoquer le pavillon d'or. Oui, c'en était au point que, rencontrant un beau visage, je le qualifiais en moi-même de beau comme le pavillon d'or. Quand je me trouvais devant la grande porte extérieure du Rokuonji, mon cœur, comme de juste, battit très fort. J'allais voir la plus belle chose du monde. Dans un mouvement délibérément jeune, c'est seulement dans des cas comme celui-là, seulement quand je choisissais d'agir de telle ou telle façon, que je me retrouvais quelque chose d'un adolescent, je m'élançais joyeusement, courant presque, devançant mon père. Et ce pavillon d'or dont j'avais tant rêvé, voici que d'un seul coup, bien trop vite, il déploya devant mes yeux l'ensemble de ses formes. J'étais là, debout, auprès du miroir d'eau, tandis que sur l'autre bord, il exposait sa façade au soleil déclinant. Le pavillon de pêche, à gauche, était à demi caché. Dans l'étang où flottaient, éparses, des feuilles d'algues et des plantes d'eau, se reflétait l'image parfaite du pavillon d'or, et il y avait plus de beauté dans le reflet. Le soleil couchant promenait sur l'envers des auvents ses lueurs renvoyées par l'étang. Comparées à la luminosité environnante, ces lueurs étaient trop fortes, trop éblouissantes. Et, comme un tableau qui exagérerait les effets de perspective, le pavillon d'or me donnait l'impression de se redresser de toute sa hauteur et d'être cambré légèrement en arrière. Pour moi, je contemplais, variant les angles, inclinant la tête, mais sans que naquît la moindre émotion. Ce n'était rien de plus qu'une vieille, insignifiante construction noirâtre à deux étages. Même le phénix semblait n'être qu'un corbeau posé à la pointe du toit. Loin d'y trouver de la beauté, j'éprouvais même une impression de discordance et de déséquilibre. La beauté peut-elle être quelque chose d'aussi laid ? Me demandais-je. Si j'avais été un garçon modeste et studieux, avant de me laisser si vite abattre, j'aurais commencé par déplorer l'imperfection de mon propre coup d'œil. Mais la douleur d'avoir été si cruellement trompée dans mon attente par quelque chose dont j'espérais tant, vidait mon cœur de toute autre préoccupation. J'allais jusqu'à supposer que le pavillon d'or dissimulait son vrai visage pour ne montrer qu'une beauté d'emprunt. Il n'était pas impossible que, pour se préserver, la beauté se joua du regard des hommes. Il fallait donc m'approcher tout près du pavillon d'or, balayer les obstacles qui produisaient sur la vue une impression si pénible, inspecter minutieusement chaque détail, atteindre de mes yeux l'essence même du beau. Rien de plus naturel que cette attitude, puisque je ne croyais qu'à une beauté perceptible qu'à l'œil. Je suivis Père qui, avec un profond respect, monta sur la galerie extérieure du Hoswinin. Je regardai d'abord, sous sa cage de verre, une maquette du pavillon d'or, d'une exécution merveilleuse. Cette maquette me plut. C'est qu'elle était plus proche du pavillon d'or de mes rêves. Et puis ce pavillon d'or miniature, si parfaitement ressemblant, enchâssé dans le grand, suggérait le jeu infini des correspondances entre un macrocosme et le microcosme qui l'abrite. Pour la première fois, je pouvais rêver. Rêver à un pavillon d'or bien plus petit que cette miniature et qui, dans sa petitesse, atteignait la perfection. Un pavillon d'or aussi, infiniment plus grand que le véritable, grand au point de contenir le monde. Devant ma fenêtre, je me pris à ruminer l'idée qui m'était venue plus tôt. Pourquoi, me demandais-je, n'avais-je pas songé à assassiner le prieur avant d'envisager l'incendie du pavillon d'or ? À vrai dire, l'idée du meurtre n'avait pas été absolument sans rôder dans ma tête, mais son inefficacité m'était apparue sur l'heure. Car, je m'en rendais bien compte, même si le coup réussissait, d'autres, avec le même crâne tondu de prêtre, la même pitoyable impuissance, continueraient de surgir sans fin de l'horizon ténébreux. En général, ce qui vit ne possède pas, d'une manière absolue, donné une fois pour toutes, comme le pavillon d'or, sa qualité d'être qui vit. L'homme reçoit une partie des divers attributs de la nature. Il ne fait que les propager et multiplier grâce à un jeu facile d'équivalence et de substitution. « Q Tuer pour anéantir la qualité d'être une fois pour toutes donnée de la victime, c'est commettre sur toute la ligne un faux calcul. Ainsi raisonnai-je, et mes réflexions me firent apparaître une indéniable et totale différence entre l'existence du pavillon d'or et celle de l'être humain. D'une part, un simulacre d'éternité émanait de la forme humaine si aisément destructible. Inversement, de l'indestructible beauté du pavillon d'or émanait une possibilité d'anéantissement. Pas plus que l'homme, les objets voués à la mort ne peuvent être détruits jusqu'à la racine. Mais ce qui, comme le pavillon d'or, est indestructible, peut être aboli. Comment personne n'avait-il pris conscience de cela? Et comment douter de l'originalité de mes conclusions? Mettant le feu au pavillon d'or, trésor national depuis les années 1890, je commettrais un acte de pure abolition, de définitif anéantissement, qui réduirait la somme de beauté créée par la main de l'homme. À mesure que se prolongeait ma méditation, je me sentais devenir d'humeur enjouée. Si je brûle le pavillon d'or, me disais-je, ce sera un acte hautement éducatif. Grâce à lui, les gens apprendront qu'il est insensé de conclure par analogie à l'indestructibilité de quelque chose. Ils apprendront que le fait d'avoir simplement continué d'exister, d'être resté debout sur la berge du miroir d'eau pendant 500 ans, n'implique aucune garantie d'aucune sorte. Le postulat foudroyant d'évidence, auquel nous amarrons désespérément notre tranquillité, ils apprendront à en être moins sûrs avec l'inquiétude de penser qu'il peut être jeté à bas demain. Oui, vraiment, ce qui préserve nos chances de survie, c'est cette enveloppe, où nous sommes pris de temps solidifié, celui d'une durée déterminée. Prenez l'exemple d'un simple tiroir fabriqué par un ébéniste pour l'usage domestique. À la longue, la durée submerge sa forme d'objet. Au bout de quelques décennies ou siècles, c'est elle qui, à son tour, s'est solidifiée, prenant la forme de l'objet. Un petit espace donné, à l'origine occupé par l'objet, l'est maintenant, en quelque sorte, par de la durée solidifiée. Le voilà métamorphosé en une certaine espèce de substance spirituelle. Dans le recueil de contes médiévaux intitulé Tsukomogamiki, on lit tout au début les lignes que voici. Il est dit dans les mélanges touchant le yin et le yang qu'après un laps de 100 années, les objets du foyer, par métamorphose, devenant esprit, jettent le maléfice au cœur des hommes. Et c'est pourquoi cela est dénommé Tsukomogami, ou esprit de malheur. La coutume est que, chaque an, avant que le printemps ne s'installe, on procède à l'expulsion des objets domestiques, et qu'on les mette à la ruelle, et cela s'appelle décrasser la maison. Et c'est pour prévenir les désastres des choses, avant que le siècle ne soit accompli, et qu'elles ne viennent Tsukumogami. Ainsi, mon geste ouvrirait les yeux des hommes au désastre du Tsukumogami, et les sauverait des 10 désastres. Mon geste ferait chavirer le monde où le pavillon d'or existait dans un monde où le pavillon d'or n'existerait pas. Le monde changerait sûrement de signification. Plus je méditais, et plus l'allégresse emplissait mon âme. La fin, l'anéantissement de l'univers présentement étalé autour de moi et sous mes yeux était proche. Les rayons du couchant s'allongeaient partout sur le pays. Ils tombaient sur le pavillon d'or qui en était illuminé. Et le monde où il était embarqué, comme entre nos doigts glissent les grains de sable, de seconde en seconde, j'en avais la certitude, s'acheminait vers l'abîme. Si le pavillon d'or flambe, oui, s'il flambe, quel changement dans l'univers de ces pauvres types! Sans dessus-dessous, la règle d'or de leurs existences, chamboulée, leur horaire de train, inopérante, leur loi. Je me délectais à la pensée que ces gens ne prêtaient pas la moindre attention aux jeunes garçons assis bien innocemment à côté d'eux, se chauffant les mains au brasero, et qui pourtant était un criminel en puissance. Je dirigeais mon regard vers le fond du val lointain, dans la direction du pavillon d'or. D'étranges bruits en arrivaient jusqu'à moi, comme des éclatements de pétards, comme si un nombre infini de gens assemblés faisaient tous ensemble craquer leurs articulations. Je ne voyais pas le pavillon d'or lui-même, mais seulement des volutes de fumée, des flammes étirées vers le ciel, des nuées d'étincelles emplissaient les échancrures des arbres et le ciel au-dessus du temple était comme constellé de grains de sable d'or. Longuement, les jambes croisées, je contemplais ce spectacle. Revenu à la réalité, je vis que j'étais couvert d'ampoules et d'éraflures et que mon sang coulait. J'avais aussi du sang aux doigts, je m'étais blessé en donnant des coups dans la porte. Comme une bête qui a échappé à ses poursuivants, je me mis à lécher mes plaies. Je fouillais dans ma poche, en retirais le couteau et le flacon de somnifère roulés dans le mouchoir. Je les jetais dans la ravine. Dans l'autre poche, ma main rencontra le paquet de cigarettes. Je me mis à fumer. Je me sentais l'âme d'un homme qui, sa tâche terminée, tire une bouffée. Je voulais vivre.
C'était Le Pavillon d'Or, la destruction de la beauté. Premier épisode du podcast Archilittérature, une lecture proposée par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. À bientôt !